C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Hey, bonne semaine à tous, Monsieur Mekena, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bienvenue à l'émission « Ça tient la route ». Si vous êtes nouveau, ben bienvenue. Si vous êtes des habitués, on est content de vous avoir avec nous.
Re-bienvenue.
cette semaine, on va recevoir Simon-Pierre Rioux. Il est à l'AVEC pour parler, en fait, de
c'est un texte.
Ouais, c'est ça.
De l'agence new-yorkaise Bloomberg NEF qui se concentre sur le marché de l'énergie.
Okay.
Et qui indique que le Canada vient de surpasser la Chine comme meilleur fournisseur potentiel de matériaux pour des batteries. Et là, juste au moment où on se déchire nos chemises avec Northvolt au Québec, il ouais. y a ça qui arrive. Alors, on va petit dépatouiller tout ce dossier-là.
Bon, évidemment, l'AVEC, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec,
exactement.
Pour préciser. Donc, Simon-Pierre Rioux est un très haut placé là. Il va nous parler de ça.
Mm-hmm.
En essai routier, t'as quoi pour nous, toi, cette semaine?
Écoute, je suis retombé dans... La première voiture que j'ai achetée, c'est une Honda Accord. Quand j'étais
il y a longtemps.
Jeune, il y a de cela une époque où les autos étaient en noir et blanc.
À l'époque
et
là, où c'était la grosseur d'une Civic.
ben exactement, oui. et là, j'ai réessayé l'édition 2024 pour comparer et c'était un bel essai.
OK, on est dans les classiques parce que moi, je suis du côté du Chrysler Pacifica cette semaine.
Ah,
j'ai revisité le modèle hybride que je n'avais pas roulé depuis quelques années. Et hybride branchable,
ben
faut
oui,
le préciser.
Forcément.
En fait, c'est le premier modèle hybride branchable de la famille Chrysler.
Quand Chrysler est un leader de l'électrification.
Oui. Excusez.
Oui, le temps a passé.
Temps a passé et voilà. Donc, on va avoir ça aussi à l'essai. Mais bon, comme à chaque semaine, je te laisse partir le bal avec tes infos, tes nouvelles de la semaine.
On reste dans l'air du temps parce que je vais vous présenter le Rivian R2, un VUS électrique compact qui est attendu le 7 mars prochain. Ce qui s'en vient étonnamment vite.
À trois semaines, là.
T'as entièrement raison. Et bon, évidemment, on voit moins la marque Rivian sur nos routes que d'autres, là, mais cette marque-là, qui se spécialise dans les camions électriques, là, poursuit quand même son essor. Il faut dire que la livraison des premiers exemplaires de son R1S, le VUS tout électrique plein format de la marque, et la R1T, qui est la camionnette basée sur la même plateforme, finalement, c'est un peu plus long que prévu. J'en ai vu un l'autre jour dans les cantons de l'Est. Là, j'étais.
Ils sont. Moi, j'en vois beaucoup en Californie.
C'est un peu plus loin.
Je parlais la semaine passée de mon lancement là-bas, mais on en voit. J'ai vu les VUS que je trouve très beaux, les R1.
C'est assez particulier.
Les R1S.
Exactement.
Oui, je mêle toujours le T puis le S. Là.
Et là, on annonce le R2 qui va arriver le 7 mars prochain et qui ne sera pas accompagné de D2 qui en ferait un sacré robot. Mais ça, c'est une autre conversation. La direction de Rivian a annoncé tout ça sur X, le réseau social anciennement appelé Twitter.
Oui.
Le R2, ben, vous l'aurez compris, là, va être plus compact que le R1S, ce qui devrait se traduire au minimum par un prix de détail plus raisonnable. L'annonce faite là, il y a quelques jours ne comprend aucune information technique, mais on peut déduire de propos qui ont été tenus l'été dernier par la directrice des finances de Rivian que le R2 va être mis en marché d'ici 2026 à un prix de détail qui devrait osciller entre 40 et 60 000 $ américains, ce qui revient environ à 55 à 80 000 $ canadiens là, selon le taux de change actuel. Mais évidemment, bon, le taux de change change, fait que ça peut changer ça aussi. Cela dit, à titre comparatif, le R1S coûte 78 000 $ américains de base en ce moment, ce qui est 105 000 $ canadiens. Fait qu'on voit quand même un véhicule là, qui serait pas mal plus accessible pour le grand public.
Puis là, est-ce que, si j'ai bien vu les quelques photos qui ont circulé, ça va être un VUS, là, ça sera pas...
Ah oui, ça c'est clair. Ouais. On a quand même breveté, ou je sais pas l'équivalent de breveté qui est pour une marque de commerce, là, mais on a mis les droits sur la marque de commerce R2T. Donc, il pourrait y avoir une petite camionnette qui pourrait devenir un jour un compagnon du R2S. On va voir, évidemment, ce qui s'en vient pour la suite. On n'a pas vu grand-chose du R2, faut s'entendre. Là, on a vu un prototype voilé, donc sous une bâche, qui avait la forme d'un VUS, dans un format comparable à celui du Jeep Grand Cherokee, qui est apparemment mon point de référence, et j'ai aussi dans les VUS. On va savoir plus, évidemment, d'informations le 7 mars, parce qu'il va être présenté officiellement avec, bon, moult photos et informations techniques, présumons-nous. On pourra aussi voir si le plan de Rivian va être toujours sur la route, parce qu'initialement, l'idée, c'était d'avoir une gamme de 6 véhicules électriques sur la route au plus tard en 2025. Là, clairement, on est en retard d'au moins 2 ans là-dessus.
Oui.
Mais on pourrait peut-être voir un plus petit VUS.
Ça a été long, Rivian, là. Ils n'ont pas rencontré leur objectif.
Ils ont un fourgon aussi qui a pas été produit aussi rapidement que prévu, qu'Amazon était supposé acheter en quantité phénoménale, puis ça aussi, ça a tardé. Mais bref, on continue quand même d'avancer, peut-être juste un peu moins vite que prévu.
OK. Bon, c'est toujours là. Autre nouvelle.
Écoute, Volkswagen se lance à son tour dans dans l'intelligence artificielle générative. Il faut quand même y penser.
Bon, attends là, pour le néophyte que je suis, tu vas m'expliquer c'est quoi ça, juste.
Ouais, ben on parle beaucoup, évidemment, d'intelligence artificielle depuis le lancement en novembre 2022 de l'application ChatGPT.
Oui, ça va.
Tout qu'un buzzword, effectivement.
Oui, tout le monde en parle de ça.
Qui est capable de comprendre et de générer du texte et des images de façon automatisée. Et bien sûr, l'industrie automobile qui est à l'affût de ces choses-là, n'est-ce pas, n'est pas insensible à la tendance. Ces jours-ci, donc, c'est au tour de Volkswagen de se lancer dans l'aventure. Le groupe allemand a annoncé la création d'une division interne relativement indépendante qui va s'appeler AI Lab, c'est assez clair, et dont le mandat va être de faire le tour du monde afin de trouver les meilleures idées d'application de l'intelligence artificielle style ChatGPT à bord de l'automobile. Et selon le cas, elle va décider soit de développer elle-même ce genre d'idées-là ou de collaborer avec les autres entreprises qui voudront bien développer les projets à sa place. Chez Volkswagen, on voit l'intelligence artificielle être appliquée de différentes façons dans les voitures, pas juste pour du divertissement. Évidemment, là, le plus évident, c'est la création d'une interface vocale évoluée, quelque chose qui va être d'ailleurs en application dès 2025 en Europe à bord de la Golf.
OK.
Parce que Volkswagen a annoncé qu'elle va utiliser carrément ChatGPT comme assistant vocal à bord de sa petite voiture dès l'année prochaine. Et on vient d'annoncer d'ailleurs, c'était au CES début janvier, qu'Alexa, la commande vocale d'Amazon, va aussi être ajoutée au système multimédia de ses futurs véhicules à partir de 2025. Donc, ça s'en vient vite.
Big Brother, là, c'est...
Ah, oui, on est passé ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Le Big Brother, c'est de la préhistoire.
C'est l'histoire ancienne, exactement. Et ce n'est pas tout, d'ailleurs, parce que Volkswagen pense qu'une intelligence artificielle conçue pour l'automobile pourrait prévenir les bris mécaniques.
OK.
En tenant compte de divers facteurs pour faire effectuer ce qu'elle appelle des entretiens préventifs, ce qui pourrait faire sauver de précieux soins aux clients.
Est-ce que ChatGPT va prendre des initiatives, genre, tu devrais prendre un cours de conduite, puis tu avais aussi un manuel, parce que tu conduis comme un pied, ou...
Ça serait bien. Je pense qu'on on s'en va vers ça, je vais le dire comme ça, mais on voit des applications d'intelligence artificielle qui pourraient faciliter la navigation en ville en aidant le conducteur à mieux anticiper le comportement des autres véhicules, ce qui est souvent le problème. Oh, c'est la faute des autres.
Ouais.
Et aussi de calculer le rythme de changement des feux de circulation, par exemple. Donc, d'espèce de cadencer le comportement du conducteur.
Si tu roules à, je sais pas, 46 km/h, tu vas entreprendre les 5 prochaines lumières vont être vertes.
Parce que souvent, les gens sont pressés d'accélérer pour tout de suite freiner au feu suivant. Ben là, peut-être que ça pourrait donner un coup de pouce de ce côté-là.
Faudrait aussi dire aux municipalités qu'ils peuvent synchroniser les feux de circulation. Ça serait une bonne idée, ça.
Ça serait une bonne idée.
Ce qui ne se fait pas beaucoup.
On le promet pour l'année prochaine depuis au moins 15 ans, peux te le dire. En tout cas, au moins à Montréal et dans certaines villes. Mais bref, on va voir ce que ça va donner du côté de Volkswagen. Là, on peut pas dire que le groupe allemand a eu la main heureuse dans les nouvelles techno depuis quelques années. Mais là, on dit qu'on veut prendre les devants. Et semble-t-il qu'on se lance à fond. Ils sont pas les seuls, mais l'intelligence artificielle, là, vous allez en entendre parler, parce qu'il y a Ford aussi, il y a Mercedes, il y a plein d'autres constructeurs qui se lancent là-dedans. Et bientôt, vous parlerez à votre voiture comme vous parlez à votre voisin. Donc, ça va être assez cocasse dans les prochaines années de voir les gens à bord de leur auto parler.
Oui, et j'ai surtout... Moi, je suis à la fois curieux et un peu anxieux de voir à quelle vitesse ChatGPT et tous les systèmes d'intelligence artificielle se sont développés.
Mm-hmm.
Parce que là, écoute, là, en quelques années, littéralement, là, on fait faire des choses qu'on aurait estimées impossibles il y a seulement quelques années.
Mm-hmm.
Et là, avec la 5G qui va rentrer dans les autos à grande échelle, ça ouvre des possibilités.
On va être très connecté.
J'appelle plus ça très connecté. Mm-hmm. Là,
Le problème, c'est que l'adoption de ces technologies-là est aussi de plus en plus rapide. Et on se précipite et on oublie que c'est pas toujours parfait.
Bon,
que ça devient un problème.
Et la voiture, tu sais, faut jamais oublier qu'on conduit 2 tonnes de métal sur une route à 120 km/h, à 115, à 110, mais bon, à des vitesses élevées, et qu'on doit d'abord concentrer ses énergies sur la personne qui est au volant puis qui doit conduire. Parce que là, on développe énormément de systèmes parallèles qui sont pas toujours, qui sont intéressants, mais est-ce qu'on va les faire suffisamment efficaces pour pas être distrayants? Comment est-ce qu'on va intégrer l'intelligence artificielle dans tout ça pour que ça devienne un complément et non pas un embarras?
Ça aide, voilà.
C'est ça, là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir tout ça. Ça me fascine. Pendant ce temps-là, tiens, je vais revenir du côté des mécaniques. Mazda a annoncé son intention d'accélérer les efforts de recherche et de développement dans le domaine de ses moteurs rotatifs.
Ah oui, bienvenue en 1980.
On n'a pas abandonné l'idée des fameux moteurs Wankel. Mm-hmm. Félix Wankel, l'Allemand qui a mis cette technologie-là au monde. En fait, plus précisément, on regarde à mettre ça comme un prolongateur d'autonomie. On le fait en Europe pour le MX-30. Mais on dit que on voudrait générer d'autres idées à partir des petits moteurs Wankel. Il y a une équipe de 36 ingénieurs qui collaborent dans le but de réaliser une percée dans la technologie du moteur rotatif, selon Ichiro Hirose, qui est le directeur de la technologie chez Mazda.
Je me rappelle être allé à Tokyo avec Mazda il y a quand même probablement plus que 10 ans, essayer une RX-7 ou RX-8 avec un moteur rotatif, prototype, sur lequel il suffisait d'appuyer sur un bouton pour passer d'un réservoir à essence à un réservoir à hydrogène.
Oui.
Donc, c'est un moteur qui pourrait être bicarburant.
C'est en 2013, ça fait 11 ans.
Donc, voilà. Et là, on nous annonce qu'on va recommencer à penser à ça. Il me semble qu'ils auraient déjà dû faire ça et on aurait réglé un paquet de problèmes chez Mazda.
En fait, il y a deux choses qui sont drôles. L'entêtement de Mazda, d'une part, mm-hmm. parce qu'il y a plusieurs ingénieurs de plusieurs compagnies automobiles qui ont dit oui, sur papier, le concept est intéressant, parce que chaque fois qu'on arrive dans l'exécution, il y a des problèmes. Ça coûte, c'est une technologie qui coûte cher à développer, qui coûte cher à entretenir. Il y a des pertes. Qui a peu d'avantages, bon, qui a le mérite d'être différente. Oui. Mais il n'y a que Mazda qui a l'air à s'entêter violemment à vouloir poursuivre les recherches dans ce domaine-là. Mais on dit que on a des idées. On a entre autres un design qui serait très, très séduisant dans un petit moteur qui ferait 365 chevaux. Et à partir de là, il pourrait avoir une nouvelle voiture emblématique. Bon, vas-tu l'appeler une RX-9? On va-tu donner un autre nom à ça? Mais il semble qu'on a mis une petite équipe là-dessus puis qu'on veut continuer de voir comment on peut tenter de ramener ça. Bon, est-ce qu'on va l'amener... là, on l'a fait comme moteur d'appoint. Mm-hmm. Mais on voudrait développer... Est-ce qu'on va avoir un autre modèle un peu niche, sport? C'est une bonne question. Il y a encore des adeptes. Il y a une petite communauté qui sont amateurs de ce genre de moteur-là.
C'est plus par nostalgie que par...
C'est plus par nostalgie.
Ouais, qu'autre chose,
À moins qu'on découvre ou qu'on règle les problèmes inhérents à cette technologie-là dans le développement de futurs modèles. Mais bon, que les amateurs de moteurs rotatifs se soient heureux, on n'a pas lâché le morceau
c'est
du côté
fini.
De chez Mazda.
Exact.
Alors nous, on va à la pause et tout de suite après, on va revenir avec Simon-Pierre Rioux pour parler de filière batterie.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, vous le savez, l'Association des véhicules électriques du Québec suit de près, évidemment, toute la filière des véhicules électriques au Québec, mais pas seulement au Québec, un petit peu partout. Mm-hmm. Et il y a un rapport, appelons ça comme ça, de Bloomberg, qui est une agence de presse très connue, qui est à New York, qui souligne, entre autres, que le Canada est le pays où il y a le plus grand avenir au niveau de la filière batterie. Et pour en parler, ben, on a le porte-parole de l'AVEC, Simon-Pierre Rioux, qui est avec nous. Bonjour, Simon-Pierre.
Bonjour, Benoît.
Bon, merci d'être avec nous. Écoute, résume-nous donc un peu qu'est-ce que ce rapport de Bloomberg raconte et en quoi le Canada joue un rôle de premier plan dans ce qui concerne l'avenir des batteries et pourquoi.
OK. Mais écoute, c'est quand même un beau rapport qui met en lumière tous les efforts qui ont été faits par des ministres fédéraux et provinciaux pour attirer cette nouvelle manne qu'est le véhicule électrique, l'électromobilité, les batteries pour véhicules électriques. Donc, les gens ont fait leur devoir. Puis c'était ça, c'était assez déterminé. Qu'est-ce qui fait qu'un véhicule, un pays a le potentiel d'avoir les meilleures batteries, le meilleur potentiel pour en créer, en revendre aux manufacturiers automobiles? C'était ce dont discute ce rapport-là. Donc, on parle vraiment du potentiel de chaque pays à construire une chaîne d'approvisionnement qui est sûre, qui est fiable et qui est durable. On veut qu'il y ait des ressources naturelles, on veut l'énergie verte, on le capital humain, puis une stabilité géopolitique, ce qu'on n'a pas dans d'autres pays. Donc, ça démontre à quel point le Canada a un grand potentiel, mais encore là, est-ce qu'on va être capable de l'exploiter complètement? Il y a certaines usines qui sont toujours pas construites. Ça va prendre encore quelques années avant qu'elles soient construites. Puis, ça démontre aussi qu'on a besoin de se dissocier un peu de la Chine pour être capable de s'approvisionner par soi-même sans être toujours dépendant d'un seul pays, alors qu'eux ont le contrôle sur les prix et peuvent avoir un gros impact sur la chaîne d'approvisionnement.
Il y a vraiment, le rapport de Bloomberg est assez important parce qu'il y a 46 paramètres dans 5 grandes catégories qui sont évalués. Donc, c'est beaucoup d'éléments.
Oui, oui. C'est un rapport sérieux, là.
Exactement. Et ici, bien sûr, on a le nez collé sur l'actualité de ce qui se passe, surtout du côté de Northvolt avec l'usine qu'ils veulent construire avec Masterville. Et on s'inquiète, évidemment, du manque de consultation, notamment avec le BAP et des choses comme ça. Et là, on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'on est en train de mettre de côté toute la gouvernance dans cette industrie-là? Et ironiquement, le rapport de Bloomberg NEF place le Canada quand même assez haut en termes de gouvernance, tous les fameux critères ESG, donc le respect justement de la société environnementale.
Oui, parce qu'on sait que du côté de la Chine, il n'y a pas d'études environnementales. C'est pas un mot qui fait partie de la définition des projets, là.
Donc clairement, on va pas, j'imagine, ce que j'en comprends, c'est qu'on va pas à tous les coups faire comme on a fait avec Northvolt en arrivant rapidement avec un projet peut-être ficelé un peu trop vite. Je ne sais pas si, mon Pierre, de ton côté, comment tu lis ça, ce que Bloomberg explique, mais clairement, on n'est pas à la fin de cette discussion-là sur comment on devrait développer cette filière-là au Canada, là.
Non, puis ce qui est important aussi, c'est de comprendre que, bon, pour faire des batteries de véhicules électriques, il y a différents types d'usines qu'on doit avoir. On va avoir des usines d'anode, des usines de cathode, il faut du recyclage aussi. Il faut qu'on s'assure que tout ça puisse retourner dans une économie circulaire pour s'assurer que ce soit des batteries les plus vertes. On veut aussi utiliser des minéraux critiques qui ne sont pas dangereux, qui ne proviendront pas de pays où il y a peut-être certains problèmes au niveau politique ou une utilisation de main-d'œuvre par des enfants, même si c'est souvent des mines qui sont très artisanales. Puis c'est un petit pourcentage, on parle ici du cobalt, mais les batteries qui vont venir de chez Northvolt, mais ils n'ont pas de nickel, ils n'ont pas de cobalt, ils n'ont pas de lithium même. Donc, les batteries lithium, pas de lithium, ça va être des batteries avec du fer puis du sodium. On en retrouve beaucoup au Québec. Puis c'est une des choses qui faisait que le Canada se classait aussi bien, c'est que les matières premières demeurent quand même l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement au Canada. C'est ce qui fait que le Canada domine ce classement-là.
Mm-hmm. Ouais, puis il faut aussi dire que, parce qu'on parle du Canada, c'est pas strictement ce qui se passe au Québec, parce que là, on cite évidemment le contexte financier avantageux, parce qu'il y a des investissements assez majeurs de plusieurs milliards de dollars qui ont été annoncés par Volkswagen, par Ford, par le groupe Stellantis, et d'autres compagnies peut-être moins connues, mais qui se font, dans la plupart des cas, en Ontario, parce que c'est là où le cœur de l'industrie automobile canadienne se trouve. J'imagine, et je ne sais pas si mon père, on peut spéculer sur le fait qu'on peut présumer qu'il y aura d'autres investissements dans ce sens-là maintenant que ce genre de rapport-là est mis de l'avant, parce que c'est la première fois que le Canada arrive au sommet du palmarès devant la Chine. L'année dernière, on était deuxième derrière la Chine. Et comme tu le dis, effectivement, l'aspect gouvernemental, le modèle politique du Canada est à son avantage et j'imagine aussi cet intérêt d'investisseurs-là assez important. Là.
Absolument. Puis il ne faut pas oublier que les États-Unis sont rendus en troisième position. Ils bénéficient beaucoup de la loi sur la réduction de l'inflation du gouvernement Biden qui fait que toute voiture électrique qui est vendue aux États-Unis doit avoir au moins des batteries ou avoir été fabriquée aux États-Unis ou dans un pays avoisinant, donc quoi, soit le Canada ou le Mexique. Ça faisait pas partie de la loi sur la réduction de l'inflation initialement. Puis le gouvernement Trudeau s'est battu bec et ongle pour essayer de s'assurer d'être inclus là-dedans parce qu'on voulait avoir, puis on savait qu'on s'en venait, on a les minéraux, on a l'énergie, l'électricité commerciale la moins chère du classement. Fait qu'on veut être capable d'utiliser tous nos avantages puis pouvoir vendre ça à des compagnies de l'extérieur. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a eu beaucoup de travail derrière les portes closes pour être capable de se rendre à ce point-là. Comme je disais, les États-Unis sont là aussi, puis ils nous talonnent. Mais il leur manque l'énergie à bas coût et les minerais aussi.
Ouais, puis l'énergie propre, il n'y a pas beaucoup d'énergie propre aux États-Unis. Non. J'en profite, Simon-Pierre, pour faire un peu de projection. On est en année électorale du côté des États-Unis. Donald Trump est largement en avance sur les démocrates. Qu'est-ce que tu crains si Donald Trump revient au pouvoir? Est-ce qu'il va littéralement jeter aux poubelles tout ce qui s'est fait avec Joe Biden pour les avancements en électrique? Ou si les États, plusieurs États qui sont assez avancés, vont décider de dire non, nous, on va continuer dans la lancée qu'on a commencée?
Benoît, tu viens de frapper le clou un peu sur la tête, là. C'est exactement ça. C'est le fait que tu as des États qui vont en Cour suprême et qui disent non. Nous autres, on veut pas être tenus aux lois fédérales. Ouais. On veut qu'on continue à avoir nos protections au niveau de l'environnement, au niveau de l'État. Puis c'est ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc, même si le gouvernement fédéral dit que pas de problème, on va créer une laxité au niveau des règlements environnementaux, puis on peut recommencer à utiliser et polluer, ces États-là vont dire non, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis il y en a qui vont se battre de ce côté-là. Autre chose aussi qui serait vraiment, vraiment dommage, c'est le fait que les États-Unis, c'est une pièce du puzzle. Aye. C'est mondial, ce changement-là.
Ben
c'est mondial.
Ben oui, c'est ça.
Des compagnies, des multinationales qui sont en train de tout créer leurs objectifs pour les prochaines décennies. Puis ça s'en va en électromobilité. Puis s'ils ne le font pas, bien, c'est les Chinoises, les compagnies chinoises qui vont arriver et qui vont remplir le marché de véhicules.
Ah ben c'est clair. Les Chinois, eux-là, les Chinois, là, ça fait 15 ans qu'ils se posent pas de questions, là, puis qui foncent tête baissée. Puis même si, bon, on n'est pas directement concerné parce qu'on n'est pas américain, veut pas, les politiques américaines ont des répercussions chez nous. Et si l'industrie américaine avance, l'industrie canadienne va elle aussi avancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là, qui prennent un grand respect et qui retiennent leur souffle en ce moment. Là.
Parce que ça peut vraiment avoir un gros impact sur l'industrie automobile canadienne puis sur ces usines de batterie-là. Parce que si on commence à avoir des véhicules, puis il y a des compagnies chinoises qui commencent à envahir du côté du Mexique et de l'Amérique latine, fait qu'ils vont commencer à vendre leurs véhicules l'an premier, puis le Canada, après ça, il va suivre parce qu'on n'aura pas trop de protection. Les États-Unis vont être les derniers. Leurs véhicules vont être encore à essence, vont avoir des technologies qui vont dater, qui seront pas à la fine pointe de la technologie. Ils ont de la misère. En ce moment, on regarde les manufacturiers automobiles, ils se plaignent tous. Ah, les ventes sont pas comme on pensait. Il faut que les prix continuent à baisser. Mais la seule façon de baisser le prix du véhicule électrique, c'est d'en produire en millions d'exemplaires. Puis c'est pas ça qu'ils font. Ils en produisent en dizaines de milliers d'exemplaires.
Ouais,
ils pensent que les prix vont baisser. Fait que là, les Chinois, eux autres, en produisent par centaines et par millions d'exemplaires. Les prix baissent énormément. Ils pourront jamais compétitionner les Ford et les Stellantis de ce monde s'ils continuent à ce rythme-là.
Ouais, ça va être un sacré défi, surtout que dans le contexte canadien, je crois que l'aide gouvernementale ou en tout cas fédérale dans le cas de projets comme celui de Ford, entre autres, en Ontario, est liée à l'aide fédérale américaine. C'est-à-dire que si, par exemple, justement, un nouveau président américain, Donald Trump, revenait et abolissait l'aide à l'industrie, je pense que le Canada réduirait aussi son aide.
Oui, absolument.
À ce
projet-là. Oui, oui. En fait, on a créé ça parce que ça existait
donc
du côté américain.
Et
c'est pour ça que je dis que les répercussions arrivent chez nous.
Mm-hmm.
La seule bonne nouvelle dans tout ça, Simon-Pierre, tu l'as bien souligné, c'est que les États peuvent dire non. Moi, la Californie, moi, le Nevada, moi, le Nebraska, mm-hmm. moi, l'État de New York, je continue dans le chemin que j'ai déjà tracé. Puis le fédéral peut aller se recoucher. Je pense que
les États qui sont quand même très populaires aussi, des
oui,
États
aussi.
Qui sont très démocrates. Donc, c'est certain que tu as des États qui sont plus républicains comme le Texas, qui sont très pro-business aussi,
oui.
qui vont où Tesla est situé. Qui vont peut-être quand même aller du côté des autres États.
Oui, je suis sûr que le Wyoming, l'Oklahoma ou la Géorgie changeront pas grand-chose à leurs habitudes.
Mm-hmm.
Mais je pense, moi, ce que je souhaite, c'est que le mouvement soit en marche de façon suffisante pour que le momentum fasse qu'on continue dans la voie qu'on a tracée. Mais écoute, ça sera fascinant à suivre. Entre-temps, merci de ton temps, Simon-Pierre, pour avoir partagé avec nous ce rapport de Bloomberg. Puis, on va garder nos oreilles grandes ouvertes, puis on va suivre ça. S'il y a des changements du côté américain qui nous touchent, on va te faire un petit coup de fil, on va se parler de ça.
Ça me fait plaisir. On va se souhaiter juste du beau vert dans les prochaines années au Québec.
Merci, Simon-Pierre.
Salut.
Alors, c'était Simon-Pierre Rioux, porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec. On va à notre pause et ensuite, on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le moment de parler de nos essais de la semaine, mais avant... avant pour nous écouter, hein, parce qu'on fait un petit rappel
pour
comme ça
capter,
chaque semaine.
Le bonus, capter, le contenu extra qu'on a fait la semaine dernière.
Oui, entre autres, parce que si vous ne l'avez pas écouté, on a fait un bonus de Serroutier dans la partie balado de l'émission. Pour nous écouter, c'est facile, 98.5fm.ca, vous allez dans la section balado. Ça tient la route. On est là chaque semaine. C'est sur le site et sur les différents sites de chez Cogeco. Mm-hmm. Vous pouvez aussi nous écouter à la radio. Le dimanche à 18h, c'est à Montréal au 98.5. Vous pouvez aller sur les plateformes. Toutes les plateformes de balado, on est là. Abonnez-vous. C'est la façon la plus facile. Et finalement, annuelauto.ca. Vous cliquez et on a sur la page d'accueil, chaque semaine, on fait la mise à jour des différents balados. On est là également, donc vous pouvez nous écouter de différentes façons.
Voilà.
L'important, c'est de nous écouter.
Ah, ça c'est très important.
Ben voilà. Alors voilà, le message est passé.
Vous pouvez nous écrire aussi sur les nombreux réseaux sociaux.
Oui. On n'est pas dur à trouver. Faites Benoît Charrette, vous allez arriver sur mon Messenger, Facebook. J'ai des questions. Il y a même ici à travers le 98.5, j'ai une adresse aussi chez les animateurs. Vous allez dans animateur, puis on est là. Vous pouvez nous avoir une question. D'ailleurs, il faudrait commencer des fois. Je réponds souvent aux gens directement, mais on pourrait se faire un petit bloc de réponse au balado, pas au balado, mais au courriel de temps en temps dans l'émission. On va essayer d'y penser. Alors, cette semaine, Alain, qu'est-ce que tu roulais pour nous?
Écoute, j'ai conduit une spectaculaire Honda Accord. Bon, évidemment, pas besoin de vous le dire, les berlines intermédiaires.
Bon, je sens l'ironie ici, spectaculaire.
J'ai une petite affection pour l'Accord. C'était mon premier véhicule. J'ai eu une Honda Civic, une Honda Accord puis une Honda CRX dans les trois premiers véhicules que j'ai achetés. Et mon Dieu, que ça en est passé du temps depuis.
Ah, CRX, c'est un beau petit modèle, ça.
La CRX, je dirais ceci. Oui. C'est le seul véhicule que j'ai possédé que je pouvais, parce qu'il y avait un problème de démarreur, je pouvais débarquer, la pousser, embarquer, me mettre en première, lâcher l'embrayage et démarrer le moteur. Tout ça à une seule personne, sans toucher au démarrage.
J'espère que la pente de ta côte t'as pas trop raide.
Fallait pas monter, fallait que ce soit sur du plat. Oui. Évidemment, une côte qui descend, c'est mieux. À l'époque, j'étais à l'université, donc on allait dans la montagne, le spectaculaire Mont-Royal, ça se faisait bien. Mais c'est une autre époque.
En fait, là, les gens viennent de comprendre pourquoi tu t'es toujours stationné en hauteur quand tu étais à l'université. Ça montait, mais ça redescend
le
pas.
Le nez fait vers en bas. Ah oui, non, il fallait.
On partait en compression.
J'avais, et puis j'avais un 2x4 pour coller. En tout cas, c'est une autre histoire. C'est une autre époque. On fait plus ça sur les autos et les enfants non plus ne font jamais ça.
C'est ça.
Mais quand même, on va dire ceci parce que la Honda Accord, elle existe encore. C'est pas le cas de CRX. Et je trouve, quand même, quand on regarde ce qui reste des berlines intermédiaires, elles sont meilleures qu'elles étaient dans le passé. Malheureusement, presque plus personne n'en achète, ou en tout cas, beaucoup de moins de gens en achètent aujourd'hui.
J'y vais avec des guillemets sur intermédiaire. C'est presque une voiture pleine grandeur. C'est grand, une Accord, là.
Oui, exactement. Tout le monde a pris du volume parce que la Civic est rendue la taille d'une Accord il y a 15 ans. Et nécessairement, l'Accord est poussée vers le haut. Et chez Honda, il n'y avait rien au-dessus.
Là.
Chez Toyota, où il y a la Camry, on le sait, il y avait des...
Il y avait l'Avalon.
L'Avalon, on cherchait le nom, merci.
Oui, l'Avalon.
J'avais la Cressida, mais ça, c'est une autre conversation.
Oui, il y a une Cressida. Il faudra parler à notre collègue Vincent Aubé, qui en avait une jusqu'à récemment.
Un fait connaisseur, exactement. Oui. Et bref, les berlines sont un petit peu tombées dans l'oubli, et je pense que la Honda Accord est peut-être une des plus grandes perdantes dans tout ça, parce qu'en plus d'être éclipsée par le mouvement massif du marché vers les VUS, elle a toujours été dans l'ombre de la Camry, justement, qui était, pendant de nombreuses années, la voiture, le véhicule léger le plus vendu en Amérique du Nord. Point.
On a dépassé à l'époque, tu avais Taurus et Camry qui se vendaient aux États-Unis à plus de 350 000 unités chaque
La Taurus,
par année.
C'était la voiture du futur à une autre époque, pensez-y.
Bon, c'est... le futur est déjà passé puis il n'y en a plus, mais bon, effectivement.
Ça pour dire que Honda Canada a décidé de simplifier son offre ces derniers temps en proposant sa berline intermédiaire de façon simplifiée. On compte une douzaine de variantes de la Civic. Mais l'Accord n'existe qu'en un seul modèle, décliné en trois versions. Il y a de base sport hybride et touring hybride. Point. Pas d'Accord coupé, qui était à une autre époque une voiture qui était quand même assez populaire. Ni une version encore plus ancienne, un moteur V6, qui remonte, en tout cas, on ne dira pas. Mais un 4 cylindres turbo de base et un 4 cylindres hybride sont ce qui existe là, pour les deux variantes, les trois variantes de l'Accord. C'est la même stratégie. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes moteurs qu'on trouve sous le capot du CR-V, dont je parlais la semaine dernière dans la version numérique de cette émission. Et signe des temps, quand même, on a combiné les deux. Puis on le disait tout à l'heure, le CR-V lui-même n'est plus exactement le petit VUS qu'il était. Parce qu'on le jumelle, ou en tout cas, on fait un parallèle avec l'Accord maintenant plutôt qu'avec la Civic, ce qui aurait été plus naturel. Mais bref, tout ça pour dire qu'au fil des temps, l'Accord est resté joue toujours ce rôle de buffer, disons ça, entre la Civic et le CRV.
De tampon.
De tampon, merci.
Oui, merci.
Sous le capot, donc, un 4 cylindres turbo d'un litre et demi qui produit 192 chevaux ou un 4 cylindres à aspiration naturelle jumelé à un groupe électrique qui produit, eux ensemble, en tout, une puissance de pointe de 204 chevaux. Tout ça est transmis aux roues avant, parce que c'est une berline à traction, ou comme on dit en pléonasmisant une traction avant. tout ça, donc, transmis aux roues via une boîte à variation continue, une CVT, qui, on va se le dire, est configurée pour se comporter à peu près comme une boîte automatique qui aurait... je veux dire 8 ou 9 rapports, là, mais qui a quand même des rapports fixes.
Oh ouais, avec des simulations de changement de rapport.
Exact, parce que quand on accélère, on sent des petits à-coups, là, ouais. Des petits coups qui rappellent un peu le changement de rapport d'une boîte plus traditionnelle.
C'est moins pénible pour le tympan, disons ça comme ça.
Oui, ben c'est aussi très doux dans le cas de la car, c'est très subtil.
Puis Honda, c'est avec Subaru, c'est parmi les CVT que je tolère.
Ah, ben, tu vois.
Que je déteste pas.
Dans mon texte, c'est écrit, et ça peut plaire à ceux qui détestent généralement les boîtes CVT.
Ben, voilà. T'es tombé pile dessus.
Alors, on complète la boucle est bouclée. Et tout ça ensemble, ça permet de conserver une consommation moyenne correcte, à mon avis, d'un peu moins de 7 litres au 100 km. Tout ça mis ensemble, ça produit un comportement extrêmement doux qui me rappelle l'accord dans ses meilleures années, une berline intermédiaire japonaise. Qui veut dire quelque chose. Donc, pas tout à fait luxueuse, mais très raffinée. La direction est juste assez légère, la suspension juste assez feutrée pour créer une impression de confort et de sûreté qui, encore aujourd'hui, et malgré tout ce qu'on dira des berlines intermédiaires, font de l'accord un des véhicules les plus plaisants à conduire sur le marché.
Pas pesant, plaisant.
Ben, plaisant, oui, non pesant. Et aussi dans une catégorie de prix qui a du bon sens, parce que je veux dire, c'est sûr qu'on peut avoir une Porsche qui est très plaisante à conduire, on se comprend, mais qui est un autre genre de catégorie de véhicule.
Exact.
Évidemment, ce serait merveilleux si tout s'arrêtait là, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il y a quand même quelques bémols là qui viennent avec tout ça là, à propos de l'accord. À commencer par son prix. Et c'est le même problème qu'avec le CRV dont on parlait la semaine dernière. La version hybride coûte trop cher, tout simplement. C'est probablement un signe des temps, là. Une accord hybride à 44 000 $ ou à 47 000 $ c'est, à mon avis, un peu dur à justifier comparativement à une accord de base qui coûte 39 500 $ donc pas tout à fait 40 000. Surtout qu'à base, c'est un peu mieux fini et un peu plus richement garni, mais honnêtement, l'expérience n'est pas à ce point-là rehaussée que, tu sais, par un système multimédia qui a pas vraiment grand-chose de plus que les versions de base. Et tout ça ne justifie pas ou n'explique pas vraiment la surprime. Évidemment, bon, je l'ai dit, je me répète un peu, mais tout est confortable, là, on se comprend. La banquette à l'arrière même est assez logeable. Là. On peut accueillir facilement 3 grands adolescents. Je le sais parce que c'est ce que j'ai fait la semaine où je l'ai essayé. Le coffre est assez utile aussi. Parce que les gens souvent disent « Ah, moi, un VVS, ça me prend l'espace logeable. » Mais le coffre d'une Accord, le coffre d'une berline intermédiaire,
ah, non,
comme elles sont plus grandes aussi,
écoute,
c'est très logeable.
Moi, j'aime la conduite d'une voiture. Je l'ai déjà dit en ondes, je ne suis pas foncièrement un amateur de VUS. Mm-hmm. Je suis capable d'en apprécier les qualités, mais je n'achèterais pas ça pour moi. Je trouve que c'est plus engageant de conduire une berline, c'est plus plaisant de conduire une voiture. Et l'accord est silencieuse, très bien construite,
exact.
Fiable. OK, c'est pas hop la joie au volant. Il y a des choses plus intéressantes que ça. Mais moi, souvent, les gens me disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de fiable, de ne pas aller au garage puis de pouvoir encore la rouler dans 10 ans. Bon, ben, voici. C'est oui à les trois.
Exactement.
C'est oui aux trois réponses. T'sais.
Je veux dire ceci pour compléter, et peut-être pas dans le bon sens, mais quand même pour le prix, on peut malheureusement, je veux dire comme ça, trouver des véhicules qui vont être un peu plus pratiques, un peu moins gourmands ou plus modernes chez d'autres constructeurs. Mais sinon, c'est une berline, effectivement, qui. Ben, quoi, faut dire, c'est une des meilleures berlines intermédiaires. Malheureusement, le marché des berlines intermédiaires est un peu vers sa voie de sortie.
Oh, oui, oui, les ventes sont maintenant anecdotiques.
Donc,
là,
elle mériterait, à mon avis, un meilleur sort, mais que voulez-vous, c'est la vie.
Ben, c'est parce que, comme il n'y en a pas beaucoup qui se vendent, les constructeurs ne poussent pas sur ces modèles-là, vont hésiter à les renouveler.
Mm-hmm.
Donc, les modèles, au lieu de rester 3-4 ans sans changer, vont rester 7-8 ans sans changer. Puis là, ben, à un moment donné, quand il faut changer, on regarde, est-ce que ça se vend encore? Est-ce qu'on doit investir quelques dizaines ou centaines de millions de dollars pour développer un nouveau modèle? Non, on n'en verra jamais à couleur. Alors, c'est pour ça qu'un après l'autre, on voit les berlines puis les petits modèles disparaître.
Ouais.
Parce que pour les compagnies, ces modèles-là ne rapportent pas suffisamment. Puis c'est triste parce que ça enlève absolument rien au modèle. Tu sais, regarde, un modèle comme la Mazda 6 est disparu. J'ai toujours dit que c'est la meilleure berline du marché qui a quitté la route. Ce modèle-là avait rien à se reprocher, puis pour une raison qu'on s'explique mal, ça se vendait pas.
Mm-hmm.
Alors, les gens ont simplement abandonné, puis ils ont dit, bon, ben, OK, parfait, la compagnie l'a retiré du marché, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'était pas une bonne voiture. C'est un bon véhicule, mais...
Exact.
Et voilà.
Et ce sera mon hommage, donc, à cette berline, cette grande berline qu'elle a, d'accord.
C'est bon. Alors, on y va avec ça. De mon côté, moi, j'ai roulé un Chrysler Pacifica hybride. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. C'est vrai, 2017 que le modèle est arrivé. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il a changé?
Ben, faut lui donner ça. Il n'y a pas une autre fourgonnette électrique branchable sur le marché, malgré tout le temps qui a passé depuis qu'elle est mise
sur le marché. Absolument. Ça a été la première et c'est encore la seule. Toyota ont un modèle hybride, qui n'est pas branchable, la Sienna. Mais Pacifica, deux grandes qualités. Très beau modèle. Visuellement, c'est un beau modèle. Mm-hmm. Même s'il date de 2017, il n'a pas pris une ride, c'est encore très beau. Et c'est de loin celui qui offre le plus bel et le meilleur aménagement. On peut enterrer deux rangées de sièges. On transforme ça d'une voiture familiale à un véhicule de déménagement en 2 minutes plates. Mm-hmm. C'est 2 minutes juste. C'est de ce côté-là, c'est très bien fait. Et c'est drôle parce qu'au salon de l'auto, il y a quelques semaines à peine, beaucoup de gens sont venus me voir et disent, je suis pas un parfait amateur de véhicules comme le modèle Pacifica. Mm-hmm. Mais j'ai rien trouvé d'aussi pratique. Puis il n'y a rien qui est aussi pratique.
On pourrait faire une émission complète sur pourquoi les gens n'aiment pas les fourgonnettes.
Exact. Mais ça reste aujourd'hui, de tous les véhicules sur le marché, celui qui est le plus pratique. Il n'y a pas un VUS qui est aussi pratique que ça. Ça, vous avez véritablement de la place pour 6 ou 7 personnes selon la configuration. Bien assis, on peut avoir 2 adultes à l'arrière qui vont pouvoir voyager pendant des heures sans problème. Donc, c'est intéressant à ce chapitre-là, mais ce qui est moins intéressant, c'est le prix qui est assez élevé et on parle de plus de 60 et presque 68 000 $ pour le modèle hybride. Mm-hmm. Par contre, vous avez un rabais. Il y a un rabais à l'achat parce qu'à cause de la grosseur de la batterie, vous pouvez avoir, puis là, j'essaie de voir là,
la teneur du rabais.
Oui, la teneur du rabais, j'essaie de me rappeler, puis je suis pas sûr. Là, qu'est-ce
c'est une bonne question.
Faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est...
C'est le rabais intermédiaire, me semble.
Oui, puis il y a le 5 000 du fédéral, puis je pense qu'il y a le 5 000 du provincial. Je pense que c'est 10 000 en tout. Mais je sais que quelqu'un m'avait dit qu'il avait fait le calcul, puis ça coûtait pratiquement pas plus cher d'acheter le modèle hybride ou le modèle essence. Ça, c'est intéressant. Bon, ce qu'il y a de moins intéressant, comment je vous dirais ça gentiment? le prix n'est pas donné, je vous l'ai dit. La batterie, ça fonctionne et ça fonctionne pas. Ça fonctionne bien des fois quand il commence à faire très froid. Moi, j'ai eu des échos de gens qui en ont pour des flottes qui ont comme véhicule de compagnie. Puis on me dit que l'hiver, on les laisse souvent dans la cour parce que la batterie fonctionne pas quand il fait très froid. Il recharge pas bien. Et des fois, comme la batterie fonctionne pas bien, le véhicule fonctionne pas bien. Ça a des répercussions sur le fonctionnement du véhicule. Ça m'a été rapporté moult fois.
C'est sûr qu'à la base, il faut la brancher. Sinon, il n'y a aucun bénéfice à avoir ce véhicule.
Bon, voilà.
Ça, c'est clair.
Il y a 50 km. C'est correct.
D'autonomie électrique,
c'est correct. On souhaiterait peut-être avoir un petit peu mieux que ça. Ça se recharge assez vite. Bon, c'est uniquement du niveau 2. Vous pouvez pas charger sur un niveau 3 là, sur ce modèle-là. C'est du niveau 2 qui va vous donner le meilleur résultat. Là.
Je vais compléter parce qu'on se le demandait il y a un instant. C'est 10 000 $ d'aide. Il y a 5 000 du provincial.
C'est ça.
5 000
c'est du fédéral, ce que je disais. C'est ça, je parle.
Sur le prix d'achat. Donc,
sur le prix d'achat.
Taxe, mais ça avait quand même
après
un petit
taxe. Mais ça balance à peu près. Ça veut dire qu'une voiture est un modèle à essence bien équipé versus un modèle hybride. Une fois que vous avez enlevé rabais, on arrive pas mal au même endroit. Mm-hmm. Le roulement est très bon, très silencieux. Puis j'oserais dire qu'après toutes ces années-là, le moteur 3.6 Pentastar a fait ses preuves. C'est un modèle qui est plus fiable qu'avant. Attention, je n'ai pas dit qu'il est fiable, j'ai dit qu'il est plus fiable qu'avant. J'aime bien la technologie Uconnect. C'est une des belles technologies dans le monde automobile, facile à comprendre, intuitive. Les écrans sont bien faits. On a des fonctions précises. On n'a pas fouillé trop longtemps dans l'écran. Côté roulement, c'est bon. Par contre, pour un modèle hybride, je me serais attendu à une des meilleures cotes de consommation. J'ai eu le véhicule toute la semaine. Je me suis promené en 10 et 11 litres au 100. Et je l'ai branché, là. J'ai un chargeur à la maison, je l'ai branché, j'étais assidu sur mes recharges. Je ne sais pas, on dirait que le moteur électrique... Bon, oui, quand on roule électrique, on ne consomme pas, là.
Ben, je ne me souviens pas, mais on ne peut pas contrôler nécessairement quand on peut rouler strictement électrique, non?
On dirait qu'on le décide pour nous. Moi, je l'ai laissé aller. Moi, je l'ai mis en conduite. Là, je partais, là, puis je me suis rendu. Là, j'affichais 50 km le matin. Mm-hmm. Bon, on n'a pas eu une semaine. On s'approche du printemps tranquillement.
C'est bizarre, là. Quand même, ben oui.
Oh, il y a eu des moins 8, 10 la nuit. Là, mm-hmm. Mais on était plus autour de moins 1, 0, 1 le jour. Mais 10 et 11, moi, je m'attendrais. Tu sais, je regarde une Sienna
ben oui.
qui fait du entre 6,5 et 7,5. Dans un hybride tout court, là, non branchable, mm-hmm. je m'attendais au moins à la même chose avec ça, sinon mieux. C'est sûr, quand vous roulez seulement en électrique, ça va. Mais le moteur 3.6, c'est un pur gourmand. Par contre, ça manque pas de pédales. Il y a quand même 287 chevaux. Ça se déplace très bien. C'est silencieux. Et c'est probablement le modèle le plus intéressant à conduire. La Sienna, le 2.5, fait du bon travail, mais c'est pas un véhicule particulièrement intéressant à conduire. Si on regarde le Kia, le Carnival, qui est une espèce de semi-compromis, c'est pas une fourgonnette, c'est pas ouais. un VUS, mais c'est un peu les deux, sans être aucun. On sent un peu la plus vieille technologie dans ce modèle-là. Il est moins cher, mais il y a une raison à ça. Mm-hmm. C'est parce que ça date un petit peu dans le modèle. Quoique, ça va bien. Quelqu'un là, qui a 40 000 $ c'est vers ça qu'il faut se tourner. Parce que Pacifica, il n'y a rien en bas de 50. Là, vous n'aurez rien. Puis même chose du côté du Sienna, c'est 55 en montant. Même chose du côté de l'Odyssée.
Ouais.
Donc, c'est rendu des modèles plus luxueux. Le problème, c'est que le Pacifica est le même prix que les autres, mais n'a pas cette qualité inhérente de produit. Mais malgré tout, il y a des avantages. Au niveau de la configuration à bord, c'est le meilleur endroit où aller. Si c'est en haut de votre liste, il y a juste là que vous pouvez aller. Il n'y a rien de plus pratique que ça. C'est le seul, tu l'as souligné tantôt, qui est encore hybride.
Qui se branche.
Qui se branche, donc qui va vous offrir une autonomie électrique. Et je dois mettre un pouce en l'air puis un pouce en bas parce que je suis un peu embêté. Beaucoup d'espace utile, le système NuConnect, le côté électrique intéressant. Par contre, vous allez payer cher pour ce que vous avez.
Ouais.
La consommation, à mon avis, est trop élevée pour ce genre de modèle-là, surtout hybride. Le comportement est correct, mais on est un peu déconnecté de la route. J'aurais aimé ça avoir une meilleure communication entre le conducteur et la route. C'est un peu lourd, c'est un peu pâteau. Il y aurait du travail à faire de ce côté-là. Il faudrait parler à Rav Gilles. Il a déjà fait des modèles
ben oui,
de course avec ça. Il pourrait retravailler ça.
Il faut dire que la position de conduite aussi donne l'impression qu'on est presque dans un autobus ou un petit camion.
Oui, ben, on est assis très
exact,
droit.
C'est plus un fourgon qu'une voiture.
Puis ça enlève au côté plaisant de la conduite. Mm-hmm. Mais tout le monde va rentrer. J'ai bien aimé l'espèce de petit miroir qu'on met qui donne une vue panoramique à l'arrière. Là, on voit les derniers. L'aménagement est bon. La qualité des matériaux est tout à fait correcte. Mais vous allez payer cher pour ce que vous allez avoir en bout de piste.
C'est sur papier, c'est un super véhicule qui, malheureusement, se transpose très mal dans la vraie vie.
Exact.
Et le problème, il est 100%.
Tu sais, on s'attend à plus d'un mm-hmm. modèle comme ça. Puis c'est un peu ça, ma conclusion. Tu sais, oui... Mais j'aimerais ça avoir une meilleure consommation, j'aimerais ça avoir une meilleure qualité, j'aimerais ça avoir un produit plus intéressant à conduire.
Ça pouvoir bidouiller dans le système électrique qui contrôle les deux moteurs, parce que je pense qu'on pourrait améliorer le.
Il y a quelque chose à faire. Là. On a fait ça en 2017 alors qu'on commençait,
mm-hmm.
puis on n'a pas amélioré en 2024. Logiquement, on aurait dû le faire
exact.
Au moins une fois. Puis c'est un petit message aux gens de Chrysler, parce que ce moteur-là était dans Jeep après, ce moteur-là était dans toutes les divisions de la gamme, et c'est pas terrible comme moteur électrique.
Exact.
Alors sur ces bons mots, ça termine l'émission. Merci d'avoir été là, Alain. Merci à Simon-Pierre Rioux de Lavec. Merci à Jean-Christophe Ouellet. Passez tous et toutes une bonne semaine, et nous, ben, on se reparle la semaine prochaine. Salut!
c'est 23.